BLP Radio.
BLP Radio. Je suis à la MJC de Savigny-sur-Orge en compagnie de trois membres du groupe NI. Est-ce que vous pouvez très rapidement vous présenter et puis m'expliquer votre rôle dans le groupe ?
Salut, je suis François et je suis guitariste dans le groupe.
Je suis Ben et je suis bassiste du groupe.
Moi c'est Nico et je suis le batteur.
Et votre acolyte qui n'est pas là ?
Anton, qui est guitariste.
Parlez-moi un petit peu de l'historique du groupe. Donc, il y a eu un premier EP en 2010. Comment a évolué le groupe depuis ? Est-ce que c'est le même line-up ? Est-ce que l'esthétique a un peu changé ? Pas trop. Dites-moi plus.
Ouais, donc le groupe a commencé en 2009 et c'est vrai que le premier EP est sorti en 2010. Et le line-up n'a pas changé depuis cette époque-là. Donc, on est à notre 15e anniversaire, en plein dans l'adolescence du groupe. Donc, ça se passe pas trop mal, même avec nos parents. Et l'esthétique, ça reste toujours une musique un peu décalée, alambiquée, qui joue fort, qui tape beaucoup. Mais effectivement, d'un EP, on a fait d'abord deux EP, qui, on va dire, presque se tenaient. Voilà. Après, l'album d'après, c'était dans la continuité, un peu plus... À l'époque, on jouait plus peut-être avec des sons clairs, des choses un peu, je vais pas dire funky, pas du tout, mais je sais pas quoi... un peu plus tranchant dans les sons clairs. Et puis on a toujours mis de la disto. Et puis on en a mis un peu plus sur le deuxième album, même beaucoup plus. Et puis on essaie toujours sur chaque répertoire, chaque disque, de trouver une sorte de thématique au niveau de la... Enfin, une direction musicale. Donc par exemple, Pantophobie, c'est le deuxième album. Lui, il a été composé, Pantophobie, c'est la peur de tout. C'était autour des peurs. Et donc on avait envie de développer des tempos plus lents que le premier album, qui lui était plus hirsute. Et un peu plus déluré, donc là un peu plus sombre, un peu plus teinté de peur. Et puis là, le dernier album, pareil, on s'est donné une sorte de direction musicale, à retrouver des tempis rapides, des choses qui... La consigne de base, c'était que ça ne lâche rien du début à la fin. Après, il y a la consigne, et puis après, il y a l'exercice qu'on réussit, qu'on a retouché ça. Après, au bout d'un moment, de vouloir tout le temps aller à fond et complètement, ça peut desservir la consigne. Donc, l'important étant de faire au mieux la consigne. Chaque disque a une thématique, mais ça reste les mêmes musiciens, la même musique. Mais par exemple, on a... un peu du mal à mélanger les morceaux de différents répertoires, quoi.
Et en 2009, comment vous étiez rencontrés et comment vous avez eu l'envie de monter ce projet ?
En fait, Nice est né en 2009 des cendres d'un groupe qui s'appelait Diatriba, qu'on avait déjà depuis 98 ou 99 avec les deux guitaristes et moi à la batterie. C'était notre groupe d'adolescents. Ce groupe-là s'est arrêté en 2009. Et du coup, Anthony, François et moi, on s'est retrouvés tous les trois. On avait envie de continuer la musique. On est reparti sur un nouveau projet. Et moi, je connaissais Ben pour avoir tourné avec son ancien groupe qui s'appelait JMPZ sur Mâcon, dans le coin de Mâcon. Et quand on a eu besoin d'un bassiste ou d'une quatrième personne, en fait, on lui a proposé. Il a accepté tout de suite. Et du coup, en gros, Ni est né des cendres de cet ancien groupe. Et Ben est arrivé et ça a vraiment donné naissance à Annie, en fait.
Parlons un petit peu style et influence. Sur votre site, il y a un petit texte de présentation qui parle de polyrythme apatride et surtout d'être anti-forme couplet-refrain et mesure 4-4. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'influence pop dans votre musique. Mais globalement, quels sont un petit peu les groupes marquants ? Et puis si vous deviez définir ou présenter à quelqu'un qui n'est pas forcément trop dans cette... dans ce style de musique, comment vous pourriez décrire ?
Il y a pour Anton, qui n'est pas là, mais je dirais Meshuggah pour lui, qui est vraiment dans le côté vraiment polyrythmique. Ça lui tient vraiment à cœur. Nous, on écoute tous vraiment des trucs complètement différents, tous les quatre. On a vraiment des groupes en commun. On se rejoint sur des trucs un peu plus classiques, un peu plus contemporains aussi, des fois. Est-ce qu'on a envie d'approcher des tableaux un peu grinçants, un peu dissonants, avec des matières, des textures aussi? On a envie d'exploiter ce genre de trucs. Je sais pas, ça me fait penser à des trucs... Enfin, on est fan de Ligeti, par exemple. Dans le côté vraiment à part, comme ça. Après, on est toujours un peu assimilé. On joue beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Et notamment en Allemagne, on a toujours eu cette étiquette un peu progressive aussi. Donc, il y a eu... C'est des formes, les morceaux sont des formes qui évoluent. Il y a des parties qui reviennent, mais qui ne sont jamais jouées de la même façon. Donc, dans le côté progressif, on pourrait faire référence à différents groupes que je ne vais pas forcément tous citer, mais voilà. Zappa, on n'est pas de l'école Zappa, mais quand on écoute du Zappa, il y a vraiment des formes très rigolotes de morceaux et des scénarios de morceaux qui peuvent faire penser peut-être des fois à des choses de Nii. Après, il y a un côté plus matrock, quoi, dans le côté vraiment, vraiment. Mais je trouve qu'on a un son vintage un peu, donc on est vraiment sur des références un petit peu plus 70s au niveau du son, on n'a pas un son métal. Et du coup, on ne fait pas référence à des gros groupes de métal, quoi. On n'est pas trop influencé par ça, je trouve. Et c'est plutôt un mix de... C'est un bon bordel, en fait. C'est un vrai bordel dans le local d'arriver à voir ces différentes influences. Après, au niveau des noms, je suis désolé, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive. Si vous avez des exemples, vous, les gars...
Zou qui revient tous les cas.
Zou.
Tous les quatre, je trouve.
Quand même. Ouais, Zou, le trio italien. Hein. François, t'as un petit truc en tête? Un petit truc qui te...
Non, mais il y a Mike Patton, enfin, tous les Fantomas et compagnie, ça faisait partie aussi des influences. Voilà.
Mr. Bungle, voilà. De l'époque, tout ça. Bien sûr, on peut pas... Voilà, on n'a pas tout un... Enfin, voilà, on peut pas réinventer la musique. Mais évidemment qu'on est influencé par les choses. Après, on ne sait pas vraiment, vraiment d'où ça vient. Mais bon, voilà, on a un petit répertoire un peu en commun dans ces groupes-là, en tout cas.
En décembre 2023, donc, est sorti l'album Fol Naïs. Déjà, ce titre, qu'est-ce qu'il signifie?
C'est du vieux français, ça veut dire « né fou ». Et en fait, c'est, comme disait François tout à l'heure, c'est sur ce thème-là, sur ce troisième album, parce qu'il y a eu deux EP, cinq titres, ou quatre ou cinq titres, et après il y a eu trois albums véritables avec huit titres, je crois, par album, huit ou neuf, un truc comme ça. Les Insurgés de Romilly, Pantophobie. Donc les Insurgés de Romilly, on avait un petit concept sur les injures oubliées, c'était des mots qui nous tenaient à cœur, avec des anecdotes très précises. Pantophobie, c'était les peurs, et sur Fol Naïs, là, c'est le thème des bouffons. Donc voilà, au moment, on a pensé à ça, au moment où on avait tous des masques. Et puis bah là, c'est le bouffon, voilà, c'est l'homme qui s'exprimait sans masque. Bon, c'est vraiment un raccord ultra vite fait. Hein. Mais en fait, quand on était vraiment, vraiment sous la pression du Covid, à un moment, là, ça a été très compliqué pour tout le monde. Et du coup, on avait envie de virer ces masques et puis d'ouvrir notre bouche. Et puis en fait, ça fait référence à ça, quoi. En fait, à ces gens qui pouvaient critiquer le système à leur époque devant la cour du roi sans se faire couper la tête et arriver à dire des choses subversives, des vérités, la voix du peuple aussi. Donc, Fol Naïs, c'est ça. C'est un hommage à des bouffons célèbres de l'histoire. Et ça veut dire né fou. C'est un hommage à quelques bouffons célèbres que nous, on a repérés, quoi.
Est-ce que c'est majoritairement ce qu'on va écouter ce soir sur scène? Et quelles peuvent être les différences entre justement la version studio et puis le côté peut-être un peu plus énergie, folie du live?
Ce soir, ça sera, on va jouer tous les morceaux de ce disque. Après, voilà, sur le disque, l'enregistrement, on a essayé de... Voilà, on est toujours un groupe, on essaye de recréer l'énergie du live en disque. On s'en approche, mais on n'est jamais... Voilà, forcément, le live apporte une dimension au niveau de l'énergie supplémentaire. Et puis après, dans le disque, on a un peu travaillé, produit, rajouté des choses. Enfin, voilà, c'est pas un enregistrement d'un concert dans un studio, quoi. Donc, il y avait des travails, des doublages, des choses en plus. Et puis, voilà, il y a même eu des sortes de... Y a, sur un morceau, il y a des sortes de sons électroniques, voilà, on en fait en live, mais pas forcément les mêmes. Et là, il y avait un truc vraiment de montage d'un morceau qui avait été charcuté, voilà, un peu de l'édition. Mais sinon, ça ressemble beaucoup au disque. Et il y a quelques plages un peu, voilà, c'est de la musique très écrite, mais il y a quand même un petit peu des moments d'improvisation. Et donc ça, avec les concerts qui s'enchaînent, ils peuvent s'allonger, mais voilà, avoir une tête un peu différente du studio, quoi.
Le tempo va être un peu plus rapide que sur le disque, parce que ça, c'est dû au côté vivant d'être avec les gens, puis l'excitation de jouer et de délivrer le truc. Et puis, bah, pareil, au niveau du volume aussi, on joue plus fort que sur le disque. Ouais. Ça dépend à quel niveau t'écoutes ton disque.
Petite question, un petit peu plus de curiosité, mais sur le morceau Catelot, il y a un instrument qui s'appelle la boîte à bourdon. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, la boîte à bourdons, c'est une sorte, c'est un instrument ancien, en fait, qui est un peu comme une vielle à roue, en fait. Ça ressemble un peu à ce principe-là. Bon, sauf que ça n'a pas la même forme qu'une vielle, mais c'est le principe de tourner quelque chose qui va frotter une corde en métal. Mais voilà, c'est un son qui se rapproche de la vielle à roue. Et on a un copain, voilà, qui joue de ça, qui adore les muses. C'est un instrument traditionnel, lui, il aime bien travailler la musique traditionnelle auvergnate, et donc c'est quelque chose qui se joue dans ses répertoires anciens. Et puis voilà, c'est sur une fin de morceau, et donc c'est sur une plage un peu ambiante, une sorte de drone très long qui se développe avec des larcènes de guitare, plein de textures, de matières, et lui arrive et se pose par-dessus. Et voilà, c'était l'envie d'avoir une petite collaboration avec un copain sur le disque.
Ce disque, il est sorti avec le label Dur et Doux, qui a quand même un bon réseau de groupes un peu dans les styles noise, expérimental un petit peu. Vous, est-ce que vous avez des contacts un petit peu dans ce réseau? Et puis, est-ce que ça déboucherait éventuellement sur des collabs, qu'est-ce que vous apporte un petit peu Dur et Doux au-delà de la pure production, on va dire?
Bah, c'est une structure qui nous a vraiment supporté à tout point de vue, sur la production, sur la fabrication du disque, sur la fabrication de tournée, quoi, sur le tour, sur le booking, sur aussi sur le graphisme, sur la promotion, sur la diffusion, sur en gros tout ça. Après, à l'intérieur du label, qui a plusieurs fonctions, en fait. Il y a évidemment plein de groupes. On est tous de Lyon, en fait. C'est vraiment de Lyon, principalement, voilà, sans détailler. Quand tu parles de réseau, en fait, ça a été vraiment du coup par coup, quoi. Ça a commencé vraiment très petitement, en fait, avec deux ou trois groupes au départ, et qui ont beaucoup tourné, en fait. Qui ont beaucoup tourné. On tournait un peu plus en France il y a une dizaine d'années, un peu plus, dans les trucs un peu plus underground, un peu plus associatifs et tout ça, et des lieux alternatifs. Et puis après, il y a eu deux ou trois groupes. Après, il y a eu, je pense à Schrom qui est arrivé un petit peu après, Ni, Poil et Brice et sa pute au départ. Et ça a commencé à faire un petit catalogue qui commençait à porter un peu une identité artistique. Et là, il y a eu un petit bouche à oreille qui a été fait. Puis on l'a beaucoup emmené sur la route, en fait, ce bouche à oreille. On a été quand même des ambassadeurs assez virulents, quoi. On a beaucoup tourné, on a fait vraiment des bonnes grosses tournées. Puis ça s'est un peu étendu vers l'Allemagne. Et à partir de là, après, c'est vraiment le bouche à oreille, puis de contact en contact, on a réussi à tisser un réseau. Donc Dur et Doux a bien su, dans le choix de ses groupes, avoir une identité. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'à un moment, ça a mis un peu en lumière et que ça a intéressé des gens, qu'on avait commencé à avoir des appels entrants et tout ça pour développer chaque groupe du label, quoi.
Si je peux compléter, tu parlais de réseau et de rencontres, typiquement, alors même si moi j'ai arrêté plus tôt, mais la rencontre de Nid et de Poil, par exemple, ça avait créé Pignol, un groupe qui mélangeait les deux groupes. En fait, c'était devenu une espèce de gros monstre à sept têtes, avec de la musique un peu aventureuse. Et ça a permis, par exemple, de faire ça. Et ça a aussi ouvert, Ben parlait de l'Allemagne. C'est vrai que quand on a commencé à tourner en Allemagne avec Poil et Nie, principalement, on a vraiment découvert tout un réseau progressif de passionnés là-bas. Et en fait, grâce à quelques personnes, en fait, maintenant, on y a joué peut-être 4, 5, 6 fois dans certaines salles. Et Poil y est allé aussi, et Schrombe aussi. Enfin, ça a vraiment développé un truc. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va là-bas, je ne vais pas parler de fanbase, parce que ce serait un peu, voilà, mais c'est y a quand même des gens qui suivent, pas seulement Nîmes, mais vraiment du Redoux. Il arrivait que des fois au merch, des gens achètent des disques sans connaître vraiment les groupes, juste parce que c'était sur le collectif. Et du coup, ça, tu parlais de réseau, voilà, là pour le coup, ça a vraiment servi à ça, et ça, tous les groupes ont porté ça en tout cas.
Juste pour compléter aussi, c'est vrai que on s'est rencontrés, on se connaissait pas, mais très vite on est devenus amis. Et quand même, ce qui nous lie tous aussi beaucoup, c'est voilà, c'est cette amitié, ces relations humaines qui sont fortes. Parce qu'il y a effectivement une sorte d'étiquette, d'aura musicale, mais finalement, quand on regarde dans le détail, il y a quand même beaucoup d'esthétiques différentes. Il y a eu aussi des projets qui ont tiré plus du côté de la chanson. Et donc voilà, c'est cette bande d'amis qui créait des projets, qui avait des nouveaux projets. Et d'une manière générale, voilà, la devise du label collectif, c'est « ça marchera jamais ». Donc c'est que des musiques un peu en marge. Mais voilà, le point commun, voilà, on nous appelle souvent pour dire « est-ce qu'on pourrait faire un disque avec du Redoux ?» Voilà, on est principalement une équipe fixe, et puis après, bah, voilà, il y a des gens qui sortent un disque avec nous en coproduction, en co-réalisation, donc c'est, voilà, mais ça reste un truc familial, quoi.
On parlait là à l'instant de concerts en Allemagne, donc en janvier 2025, il y a une tournée, alors pas que Allemagne, Europe centrale, Europe de l'Est, Italie aussi, je crois. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez l'impression que votre public est peut-être moins en France et plus... dans ces pays-là, comment vous expliquez ça historiquement, enfin...
C'est un peu l'éternelle question. Enfin, ça a changé quoi, en 10 ans. En plus de 10-12 ans, ça a changé. Avant, on avait quand même plus de dates en France. Il y avait quand même plus de lieux alternatifs aussi qui avaient la capacité de programmer des concerts. Maintenant, il y en a beaucoup qui ont fermé. Et puis, des collectifs qui ont disparu au fur et à mesure. Après, pour le réseau allemand, enfin, je sais pas, nous, on explique ça avec une question un peu de... culturel quoi, enfin au niveau le rock progressif est très inscrit dans la culture allemande, c'est assez marrant des fois de faire des concerts là-bas devant des têtes un peu blanches quoi, on a un public des fois âgé d'une cinquantaine d'années et dans des festivals qui sont des fois beaucoup plus le rock progressif un peu à la Magma, dans le psychédélisme, à la Zappa, mais vraiment rien à voir avec Nie quoi, pas dans ce côté complètement plus brutal, un peu plus énervé et plus fort quoi, enfin plus rock, plus metal peut-être un peu. Et ils nous intègrent quand même à ces programmations-là, et du coup, on s'est retrouvés dans des festivals de hippies, des fois allemands, à Burgersberg, c'était assez étrange, quoi. Et ils adorent ça, se prendre ça en plein milieu d'un festival où il n'y a pas un seul groupe comme ça. Donc, ils sont super ouverts, en fait. Après, alors c'est peut-être là où je sais pas, moi, quand j'y réfléchis souvent, parce qu'en plus, c'est une question qu'on nous pose souvent, pourquoi vous tournez plus en France ? Enfin, on tourne moins en France. Après voilà, moi je sais pas, en y réfléchissant, on a peut-être une réponse là-dessus, c'est peut-être une culture en France c'est du remplissage de salles un petit peu aussi quoi, du coup il y a peut-être une jauge minimum, ils ont envie de faire Nie, il y a énormément de programmateurs qui disent ah, mais j'adore votre musique, on aimerait bien vous programmer, mais si on fait Nie, j'ai une salle de 200 et vous allez ramener 80, ben on vous fait pas, ou alors ça repasse par des espèces de cachets qui sont négociés, enfin, tu sens que ça devient douloureux et compliqué. Et à pas mal de fois, on se confronte à ça, en fait. Ah, on adorerait vous faire, mais ça se fait pas, en fait. Alors, par contre, en Allemagne, ils se posent pas la question, ils nous font tout le temps. Et puis ils tracent, et puis ça marche. Puis à force, il y a du monde. On a vraiment du monde quand on joue là-bas, quoi. Et quand on joue en France, bah, c'est un peu aléatoire, quoi. Il y a vraiment des moments où il y a du monde, mais plein de moments où c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Mais vraiment pas la réponse officielle. Ouais. On se demande toujours pourquoi on va pas dire que notre pays nous boude, hein, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, mais franchement, je comprends pas, quoi. Ça serait vraiment génial de nous laisser un peu proposer ça, je pense, dans les endroits. Ça, je pense que ça serait vraiment, vraiment intéressant. Ça serait super intéressant, quoi, de laisser un peu ce rock aventureux-là, de venir jouer dans des conditions aussi bonnes que certains trucs beaucoup plus pop et beaucoup plus voilà, récurrents, un peu plus répétés, un peu plus souvent programmés, quoi.
Dans cette tournée-là, est-ce qu'il y aurait une ou deux dates que vous souhaitez mettre en avant, parce que plus grosse scène, parce que festival, ou des endroits où vous avez peut-être déjà joué et vous savez que ça va être cool? Ouais, la tournée de janvier, ouais.
On va avoir 12 dates, si je ne dis pas de bêtises, en 13 jours. Et Bruxelles, c'est une ville où on a joué quelques fois, et à chaque fois, c'était plutôt cool. Enfin, les salles qu'on avait faites sont plutôt bien, il y avait un petit public. Donc on attend, et surtout Berlin, je trouve. Berlin, on y a joué pas mal de fois. Et la dernière fois qu'on a joué, on a fait vraiment une bonne salle. On a dû faire peut-être 150, je sais plus, un truc comme ça. Et je crois que c'est avec le même promoteur. Et du coup, on est content de retourner là-bas, de voir, en espérant que ça aura porté ses fruits, puis qu'il y aura autant de monde, voire plus. Après, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux pays qu'on n'a jamais fait. On va jouer en Serbie, on va jouer en Slovaquie. Non, Slovaquie, on a déjà fait une fois. Bah non, du coup, on n'a pas fait Slovaquie. Enfin voilà, il y a quelques nouveaux territoires qu'on n'a jamais fait. Donc ça, c'est toujours un peu excitant aussi de voir... débarquer, puis voir un peu si les gens nous connaissent déjà un petit peu ou non. On rejoue à Prague aussi, la dernière fois qu'on a joué à Prague, ça doit faire la 3e ou 4e fois qu'on va y jouer, je pense. Et pareil, la dernière fois, il y avait un petit peu le monde, c'était un petit club. Enfin voilà, en fait, on plante des graines à chaque fois, au bout de plus de 15 ans, enfin de 15 ans maintenant, on plante des graines, et puis je sais pas si on commence à voir un peu les résultats, mais c'est vrai que voilà, la dernière fois qu'on a joué à Berlin, de voir du monde, qui sont venus voir Nîmes, ça fait du bien, c'est un peu gratifiant quoi. Après forcément on se prend encore des fois des fours et des fois on a des mauvaises surprises, et notamment en France par exemple, comme Ben disait tout à l'heure, ça peut arriver. Mais voilà, en tout cas sur cette tournée là de janvier, ouais, c'est pas pour sortir des dates du lot, mais ouais, moi je suis un peu attaché à Bruxelles et Berlin, vu que c'est des dates un peu sur des grandes villes qu'on a déjà faites. Et après je suis aussi très excité de jouer dans des nouvelles villes et nouveaux pays quoi.
En fait, on a pas mal développé aussi la Belgique et la Hollande aussi. C'est vraiment des territoires qu'on a pas mal joué aussi. Et en fait, avec ces festivals-là, ça a donné lieu un peu vraiment à, comme les festivals comme le Complexity, le Roadburn. En Hollande, c'est quand même un festival où il y a pas mal de promoteurs et de pays étrangers qui viennent de loin. C'est pour ça qu'on arrive aussi maintenant à étendre. C'est une des premières fois où on va autant à l'Est là. Mais tu vois, ça fait 12 ans après quoi. Donc... il y a du boulot quoi encore.
Comme dit Ben, c'est vrai que le genre de festival comme le Roadburn ou là le Lark Tangente qu'on va faire l'année prochaine, c'est des festivals un peu de renommée dans ce genre de musique. Enfin, beaucoup de gens nous en parlaient depuis des années, mais pourquoi vous faites pas ces festivals là, etc. On joue à Oslo dans 2 semaines sur un autre festival aussi qui s'appelle Ost Sabbat. Et là, du coup, au bout de 15 ans, on arrive à mettre un doigt de pied dans ces festivals, même si c'est par la petite porte. Mais du coup, ça fait très plaisir. Après, voilà, rien n'est gagné, mais c'est vrai que ça... On a l'impression que c'est pas un aboutissement, alors que c'est juste le début d'un truc, quelque part, quoi. Parce que le but, c'est de pouvoir peut-être y rejouer dans 3 ans, 2 ans, dans des meilleures conditions, etc., quoi. Mais en tout cas, le truc qui s'est passé sur Fall Lies, c'est un peu ça, c'est qu'on a réussi à accrocher un petit peu ces festivals, ce genre de truc, quoi. Qui nous a rêvé, mais en tout cas qui était un peu dans une lune de mire, entre guillemets, quoi. Et ça fait du bien d'arriver enfin à toucher un peu ça et voir si on arrivera à concrétiser le truc derrière.
Comment vous voyez la suite du projet après cette tournée 2025, est-ce que c'est plutôt une période où vous imaginez continuer à tourner Fall Naïs? Est-ce que c'est une période où vous allez peut-être repartir en compo, un peu des deux en parallèle? Est-ce qu'il y a peut-être aussi des envies de clips?
Ouais, c'est ça, là. Fall Naïs, il est sorti il y a un peu moins d'un an et on a encore bien envie de le jouer sur scène et puis de le partager avec du public. Donc on va espérer tourner un maximum cette année, sur toute la saison. Voilà, on a... Là, cette belle tournée de janvier, après on a des périodes en mars, même en été, alors qu'on était rarement un groupe estival, mais là, voilà, on commence à avoir des plans genre festival et autres qui arrivent, donc on va faire ça, et en parallèle également, on a envie de se relancer un peu dans de la création, sans se mettre de pression, et voilà, peut-être sur peut-être un format plus court, on ne sait pas encore vraiment, mais voilà, pas forcément viser un album avec une deadline... qu'on verrait dans un an, 6 mois ou je sais pas quoi. Là, c'est plus se remettre et puis voilà, essayer de on a commencé à en causer, mais de refaire de reprendre un peu des manières de composer qu'on avait au début, enfin essayer de varier les plaisirs, quoi, de retrouver d'autres sensations et puis voilà.
C'est vrai ce que tu dis, François.
Oui.
Je suis d'accord, je te suis.
Là, vous jouez ce soir dans le cadre de la 4e édition des Beastcore Nights. Est-ce que vous connaissez un petit peu les autres groupes qui sont à l'affiche de ce festival?
Alors, les connaître, on a joué avec Hot Fiction une fois, et on a joué avec Nourriture une fois. Donc, on les a connus une fois. Donc, on les connaît peu, mais ils sont super cool. Donc, on les rencontre une deuxième fois. Donc, on va mieux se connaître ce soir. Dire qu'on les connaît, voilà, on a vraiment juste, ils nous ont invités sur deux dates et c'était une super rencontre avec les deux groupes. Donc très content d'être là ce soir.
Moi si je peux compléter, ouais, comme dit Ben, on a joué une fois avec chacun de ces deux groupes. À titre perso, mais je pense que c'est un peu pour tout le groupe, ça fait un peu partie des groupes avec qui on a pris plaisir de découvrir, en fait, de voir, enfin, nous on est un petit peu plus vieux, on a tous la quarantaine passée, quoi, et de voir des groupes plus jeunes s'aventurer dans ce genre de musique, ça, c'est vrai que ça... Bah ça fait plaisir de voir ça. Hier aussi, on a joué avec un groupe qui s'appelle Mouche Miel, un groupe suisse, un duo qui est vraiment super aussi. Et pareil, ça fait du bien de voir un peu ces groupes un peu plus jeunes s'aventurer là-dedans. On se dit qu'on... Voilà, parce que nous aussi, on était comme ça, il y a 15 ans, voire un peu plus même des fois. Donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de rencontrer ce genre de projet.
Pour conclure, pour les gens qui veulent se tenir au courant, des futurs projets, des dates de concert, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quelles sont les bonnes adresses sur Internet?
On a le site Internet pour ceux qui n'ont pas les réseaux, ni-musique.com. Et après, ceux qui ont le réseau, on a un Facebook, un Instagram. C'est assez simple, on n'a pas passé le cap des TikTok et de tous ces trucs. Et je ne pense pas qu'on le passera parce qu'au bout d'un moment, ça n'a plus vraiment de sens. Déjà Instagram, pour un groupe de musique, je trouve que c'est un non-sens, c'est fait pour poster des photos alors qu'on fait de la musique, mais bon voilà, donc on joue le jeu. Bon, en tout cas voilà, sur Instagram c'est _ officiel, et sur Facebook c'est une purge à trouver, donc je vous conseille d'aller sur Duredou et vous pourrez trouver les liens dessus. Et voilà, et on a un Bandcamp aussi, c'est le meilleur moyen pour soutenir le projet, c'est d'acheter du merchandise, des t-shirts, des CD, des vinyles évidemment, soit via notre Bandcamp, soit via le site de Duredou. Et c'est vraiment le meilleur moyen avec les concerts pour soutenir ce genre de projet, quoi. Donc soyez curieux et venez au concert.
Super, et merci bien à vous trois, et puis je vous dis merde pour le live de ce soir.
BLP Radio. BLP.